Ok, je vais juste vous demander de vous présenter déjà.
Alors je m'appelle Julie, je suis habitante de Marseille et je suis très impliquée dans une aventure avec une petite rivière qui passe dans les quartiers au nord, donc les quartiers populaires de la ville.
Okay. Je mets mon casque, ça va être mieux. Ok. Justement. 1, 2, 1, 2. 1, 1, ça rentre. Ah bah normal. Si je bouge pas, ça peut pas marcher. C'est beaucoup mieux. Ok. Julie, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qu'est la démarche, les Aigalades, justement, dans le secteur de Marseille?
Alors, les Aigalades, en fait, c'est le nom du ruisseau. On dit ruisseau parce que c'est vraiment un petit cours d'eau. C'est un petit cours d'eau qui fait 17 km, mais qu'on peut aussi appeler fleuve côtier. Donc, ça amuse beaucoup, nous, déjà, à interroger les noms. Parce que, bon, alors, ruisseau, c'est petit, c'est gentil. Mais fleuve, ça fait tout de suite plus crédible pour l'institution. Mais donc c'est une rivière urbaine qui, comme toutes les rivières urbaines en France, a été très invisibilisée au fil du développement urbain, d'abord avec souvent une première phase qui est l'industrie qui fait que la rivière elle peut plus être utilisée pour des raisons nourricières, et puis que progressivement elle pose problème parce qu'effectivement il y a les odeurs, donc on finit souvent par se débarrasser de l'affaire en buzant. Et donc elle a des parties busées, des parties non busées, mais en tout cas elle a vraiment, étant en plus au nord de la ville, donc pas dans des quartiers sur lesquels il y a un grand soin par rapport au cadre de vie, comme dans des quartiers plus riches, il y a effectivement une sociologie qui fait que il y a une attention, y compris une compétence technique de la part des habitants, des capacités de pouvoir pour faire que les projets se passent différemment. Là, on est dans des endroits où c'est vraiment très fracassé, quoi. Et donc, on s'est constitué à partir au départ d'une pratique qui était la marche urbaine. Donc, on a à Marseille une pratique qui est assez ancienne, d'essayer de recomposer notre capacité d'habitants à reconsidérer un peu les enjeux, à se provoquer des situation de conversation sur des sujets clivants par la marche. Et c'est par la marche qu'on a redécouvert finalement ce ruisseau qui était complètement, mais même pas accessible, qui était caché. Et donc il a fallu un peu que. Il y a eu toute une première période de l'histoire qui était assez marrante parce que c'était vraiment mode les aventuriers de l'Arche perdue, quoi. On était à la machette et tout. Il y a eu des moments de grâce parce qu'on a découvert une cascade. Enfin bon, et donc derrière le ruisseau tout pourri, il y avait des endroits encore magiques et qui avaient été laissés en plus ensauvagés à l'abandon parce que c'est dans des endroits où il y a des déprises industrielles. Donc les usines ont été plus ou moins abandonnées, le ruisseau était inaccessible parce que dans l'enceinte de l'usine, mais finalement laissé tranquille pendant 40 ans. Donc en même temps, des trucs très paradoxaux. En même temps, c'est tout pourri, ça a l'air tout foutu. Et puis en fait, il y a quand on commence à sortir de la bagnole, à sortir de la carte techno, on découvre des histoires et même des endroits fascinants. Donc nous, voilà, par la marche, on s'est sensibilisés, on s'est ressentis concernés par l'existence de cette rivière. Et puis je pense qu'on a évolué au fil des années aussi, puisqu'à la base, nous, on n'était pas du tout des gens très éduqués en écologie, où on venait pas justement de bataille sur l'eau, on n'était pas pêcheurs comme eau et rivière. On a plutôt attrapé le sujet au départ sous un angle patrimonial, hein, et justement sur des questions aussi d'urbanisme qui maltraitaient les territoires, à la fois l'urbanisme et les gens. Et du coup, la rivière, au départ, elle est devenue un peu le porte-parole, y compris pour les humains, de se dire, bon, ben voilà, on maltraite pas bien le vivant. Et puis, progressivement, ben, on s'est éduqués nous-mêmes. Hein, on a fait une sorte d'université populaire en marchant. On a rencontré les mémoires des gens. On a rencontré progressivement aussi. On est allé chercher des scientifiques. On s'est construit une espèce de connaissance qui est en évolution permanente, mais qui fait qu'on a commencé à vraiment regarder, même si elle était très, très abîmée, très dégradée, la rivière comme une entité vivante qui valait le coup.
Une personne.
Voilà, enfin en tout cas une entité, ouais, voilà, une personne. Enfin, alors nous, on n'est pas parti sur... on a fait venir à Marseille, il y a beaucoup de points communs avec ce qui est tenté ici, que ce soit par l'Atlas socioculturel ou par le comité... on s'est tous à un moment, je pense, de toute façon, sentis très concernés par les expériences de personnalisation, que ce soit juridique ou juste par le récit des rivières. Donc, de toute façon, ça nourrit. Nous, après, on n'est pas parti dans une démarche juridique par rapport à notre rivière. Mais en tout cas, on est un peu comme vous ici, un stade où on a vu que la capacité citoyenne était importante, qu'on pouvait véritablement arriver à des niveaux d'expertise qui hybridaient la connaissance technique et une approche différente, plus sensible, et que c'était qu'il y a un enjeu là-dessus pour tout le monde, qu'il y a du concernement, que les gens ont envie, que même les techniciens en partie ont envie, mais pour l'instant, ça bloque toujours sur comment les deux logiciels de gouvernance se rencontrent, quoi. Donc nous, on en est vraiment là, c'est presque comme si, comme dans notre cas, la rivière n'avait pas de gestionnaire. Donc, on s'est auto-commandité tout. Alors, c'était chouette, quelque part, parce que comme il n'y avait personne, ni de scientifique, ni de... En fait, personne, pas de personnel politique, personne. Donc, on s'est auto... on n'avait pas de problème de légitimité, quoi. On s'est auto-légitimé sur tous les champs. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas envie de pouvoir dialoguer avec des pouvoirs publics. Et on a milité au travers notre mobilisation autour du ruisseau pour que justement ce cours d'eau ait des interlocuteurs aussi institutionnels. Ce qui a fini par être le cas il y a 2 ans, donc très récemment. Et là, on est dans cette phase où il y a du respect mutuel. Il y a une conscience qu'on est tous, de toute façon, embarqués dans les mêmes problèmes, en fait. Les techniciens, comme nous, d'une société qui est devenue, pour ces sujets-là, très hors sol, mais qu'on a besoin de tout. Et donc, nous, on s'est retrouvés un petit peu dans une posture presque d'une espèce de syndicat de rivières citoyens qui était là. Il y a le syndicat officiel qui arrive et qui a conscience qu'ils ne peuvent pas arriver comme ça, en faisant comme si... Et du coup, il y a une envie d'expérimentation commune, donc on le fait, c'est-à-dire que... Clairement, maintenant, ils financent certaines de nos actions, mais on n'arrive pas encore à revisiter, par exemple, nos manières d'arriver à fabriquer une feuille de route commune. On n'arrive pas à dépasser le fait que nous, ça ne nous intéresse pas plus que ça, d'avoir un strapantin au SDA. Enfin, oui, on y va, mais on sent bien que ce n'est pas là que notre compétence elle a un intérêt, en fait. Et inversement, le fait qu'ils financent certaines actions qu'eux vont faire passer sous l'angle de la sensibilisation, nous, ça ne nous convient pas, parce que derrière, on dit, OK, cet autre récit, cette autre matière, on la débriefe comment ? Avec vous, et pas que dans la sensibilisation. Quand est-ce qu'on parle au pôle terrain ? Quand est-ce qu'on parle véritablement aux gestionnaires ? Enfin, à quel endroit ça fabrique du commun ? Et donc du commun, bah, effectivement, il y a quand même un moment, l'organisation autour d'un commun, c'est une organisation de concernement et de fabriquer ensemble les questions pour ensuite fabriquer les actions. Et là, la gouvernance technique, elle est pas fabriquée comme ça, quoi. On applique des directions, on applique des... Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'on en est tous un peu là et que c'est un peu ça qui fait que la rencontre qu'a proposée Eau et Rivière nous a parlé, qu'on a traversé la France en assumant qu'on prenait l'avion. Parce qu'on a l'impression que toutes ces expériences-là qui se sont multipliées en France, tout le monde s'est bien relié, les rivières, les petites, les grandes expériences, on se connaît maintenant, mais qu'on a un enjeu méthodologique, qui est donc un enjeu politique, de politisation, mais qui passe aussi par des questions de méthode, sur lequel je pense qu'on peut trouver des plus de réponses ensemble.
Pour autant, toute cette démarche, on parle de marche au départ, est-ce qu'elle a créé et est-ce qu'elle a augmenté l'attachement que vous aviez à ce cours d'eau tous ensemble? Voilà, est-ce que ça a créé des attachements?
Ah bah là, c'est le truc de base, parce que nous, comme on était dans une rivière où il n'y avait pas possibilité de partir sur un attachement territorial préexistant, même amoindri, mais souvent quand on est face à une rivière qui n'est peut-être pas en bonne santé, mais qui est quand même, qui ressemble encore à une rivière, sur laquelle il y a encore un terroir, qui ressemble à un terroir un peu, enfin bon, là, on en parlait par rapport, c'est une grosse différence, là, nous, par contre, entre notre situation et par exemple la situation bretonne, on ne peut absolument pas se reposer sur une culture politique ici qui est passée... plein de sujets, par la langue, par plein de trucs, qui fait qu'à un moment, on peut un moment adosser l'attachement aux rivières à des attachements territoriaux, d'une culture territoriale qui s'est quand même déjà bien pris en main. Nous, on part à Marseille d'un truc où il y a c'est fracassé, il n'y a pas de culture collective possible. Donc il faut l'inventer. Donc on est presque dans le schéma inverse, et c'est pour ça que ça fait le lien, nous, plus peut-être qu'ailleurs, avec les artistes. C'est que la question donc de la culture, de s'inventer une culture territoriale et une culture collective, mais avec du coup plein de gens super différents, avec des gens qui viennent d'Algérie, avec des gens qui... Parce que là, les riverains, comme on est quartier nord et quartier populaire, c'est vraiment socialement, c'est les quartiers les plus compliqués socialement, avec le plus de précarité et tout ça, quoi. Donc inventer un récit collectif, on ne peut pas juste en référer à avant. Le avant du terroir il y a 200 ans, quoi.
Tout est inventé.
Tout est inventé. Et donc, du coup, la place des imaginaires et le fait qu'effectivement, avec les compétences des artistes, on peut un peu augmenter le niveau de délire. Alors, il y a le niveau qu'on partage tous. Par exemple, j'ai l'impression qu'on fait tous des chansons, les uns les autres, là. Et ça, pour ça, on n'a pas besoin des artistes. Quand on est capable aussi, c'est pas l'apanage de... Enfin, revisiter la problématique, la bataille culturelle de l'eau, c'est pas que dire qu'il faut des artistes partout, quoi. C'est aussi nos imaginaires, il faut les muscler. Fabriquer des chansons collectivement, c'est super, et il n'y a pas besoin d'artistes pour ça. Par contre, c'est vrai qu'à un moment, pouvoir élaborer des formes plus complexes, retrouver des gestes, la place des gestes, tous ces savoir-faire qu'on a perdus et que des fois, bah oui, ils sont perdus, quoi. Oui, avant, les gens, ils savaient tresser. Bon, bah maintenant ils savent plus tresser. Bon, bah nous, c'est avec les artistes qu'on retrouve, par exemple, comment on peut tresser avec de la canne de Provence, qui est devenue, dans le langage du gessonnière, simplement une invasive. Et nous, on dit, ok, il y a un dérèglement, il y a une présence de la canne de Provence qui est problématique pour les milieux. Néanmoins, juste l'éradiquer, en plus ça marche pas. Vous faites fausse route, et en plus, voilà, ça marche pas en vrai. Vous dépensez plein d'argent pour ça. Avant, c'était une ressource. Il y a pas longtemps, peut-être que déjà, si on réapprenait à la jardiner, à poser des gestes, à la fois, finalement, on gérerait peut-être un peu mieux ou différemment. Des fois, ça peut marcher, pas à tous les coups, mais il y a des fois où ça peut marcher. Et en plus, on retrouve et on refabrique une culture partagée qui s'appuie sur des gestes qu'on a perdus, mais pour faire autre chose, parce que on n'est plus des paysans. Mais ça n'empêche pas qu'on peut essayer de se refabriquer un folklore.
En tout cas, ça part des riverains, ça part des habitants, ça part de ceux qui travaillent depuis, là, dans votre...
Oui, donc nous, c'est parti vraiment d'une démarche citoyenne. Alors maintenant, dans le collectif qui s'est inventé autour de cette pratique au départ, donc comme je disais, de l'exploration de la marche, et après progressivement de se refabriquer un imaginaire, une culture partagée, du coup, c'est assez hybride. Il y a des assos qui sont plutôt, on va dire, type famille FNE, mais qui ne sont pas arrivés sur des enjeux de préservation, puisque nous, il n'y a rien à préserver. Par contre, on a des enjeux de pollution. Donc du coup, on va avoir en gros... tout ce qui vient plutôt au départ d'un concernement patrimonial, d'un concernement pollution et d'un concernement
urbanisation.
Et de ça, on a réussi à refabriquer des attachements pour l'eau. Alors qu'à la base, ce n'est pas facile, vu, encore une fois, l'état dans lequel la rivière est. Et là, ce qu'on est hyper content, c'est que donc, non seulement, finalement, on revoit et on regarde à nouveau ce cours d'eau réellement comme une rivière, et ça devient... on sent qu'on change le regard des gens, donc les attachements, donc leur capacité à se mobiliser d'une certaine manière. Mais au travers de ça, et c'est vrai que la rivière, on va dire que peut-être elle est un peu sacrifiée, je ne sais pas jusqu'où on arrivera à la soutenir, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle nous aide à nous fabriquer du concernement pour tous les sujets de l'eau. Et j'ai l'impression qu'un des trucs qui est intéressant avec les rivières, c'est qu'on arrive à trouver du sens à écouter le récit de celui qui parle de son grand fleuve, la Loire, le Rhône, que le petit cours d'eau. En fait, ça devient une espèce de langage un peu commun, une espèce d'espéranto. Et on peut être ruraux, on peut être du nord, du sud, en ville, dans un petit pays ultra rural. Quand on parle rivière, il y a comme un truc qui nous relie. Et ça, c'est quand même assez rare d'avoir une thématique qu'a à voir avec l'effondrement du vivant et la transition qui nous mette à ce point-là ensemble.
Un petit dernier mot par rapport à ce que vous avez pu entendre ce matin, par rapport à votre regard sur l'atlas socioculturel des rivières de Bretagne. Comment vous regardez ça ?
Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai l'impression, effectivement, quand j'écoute les expériences les uns et les autres, c'est incroyable à quel point on utilise les mêmes mots. Même des fois, c'est presque « Oh, bah, moi je pensais que ça, nous on l'avait ressenti, mais bah, vous aussi !» Alors il y a le double truc de dire « Waouh, c'est hyper banal en fait ce qu'on a ressenti, parce qu'on a tous finalement... » Il y a vraiment plein de trucs très communs, quoi, entre nous.
Exemple ?
Bah, déjà, rien que cette histoire de marché. On a tous un moment, là, on raconte tous... moi, j'ai fait deux ateliers ce matin. Bon, il y en a un, ils nous ont raconté qu'ils avaient fait une grande marche et qu'ils s'étaient re-rencontrés voisins, que ça avait fait de l'intergénérationnel, qu'ils avaient réussi à parler aux agriculteurs alors qu'avant, ils fightaient. Enfin, bon, voilà. Et l'autre expérience avec l'Atlas, l'histoire qui nous a été racontée, c'est quand même qu'une des suites de tout ça, c'est qu'il y a eu une asso de rando qui s'est appropriée à mort le truc, qui a créé une chorale et qui, maintenant, œuvre pour qu'il y ait un sentier pour continuer à se relier à la rivière. Donc, bon, ne serait-ce que ce truc de la marche, où nous, on a l'impression à Marseille, quand même, on est les artistes marcheurs, la marche périphérique. On dit, bon, bah, nous, en fait, vraiment, c'est tout le monde. Très bien. Et après, j'ai l'impression aussi, que ce que je disais tout à l'heure, qu'on a vraiment un enjeu partagé et que peut-être Eaux-et-Rivières peut, de par son statut, qui est à la fois de venir du terrain, mais de cette très, comme ils le disent eux-mêmes, technicisé, peut-être même trop à un moment, ils sont quand même à des endroits d'être un peu double cursus qui peut amener des expérimentations à des endroits où quand on est que du secteur associatif ou juste un collectif, enfin où c'est pas facile. Et comme là il y a un enjeu, il me semble, de méthode autour de ces problématiques de gouvernance, j'ai l'impression que Eaux-et-Rivières, à travers sa démarche, alors les Atlas, mais pas que, la recherche-action qui va suivre, en fait, me semble vraiment une piste à travailler ensemble. Et nous, on essaye, en fait, de fabriquer un cadre de coopération. On pourrait travailler sur le sujet entre Marseille, Montpellier et ici, la Bretagne. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vraiment trouvé. Ce qu'on cherche concrètement, on cherche des financements pour mener... Mais c'est ça, en tout cas, moi, l'attente que j'ai, c'est au-delà de la super sympathie qu'on trouve les uns avec les autres, parce qu'en fait, on traverse des histoires assez communes, c'est maintenant comment on débriefe tout ça pour arriver à le porter en outil pour fissurer le bloc de la gouvernance technique qui lui-même demande quelque part à l'être. Mais concrètement, on fait comment, quoi ? Donc voilà, moi j'attends un peu ça de la suite de ces rencontres-là, mais ça ne va pas se jouer aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui.